Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, l'appel de la Fondation Mapon à l'arbitrage du chef de l'État après le gel de ses comptes bancaires ordonné par le procureur général. Elle estime que cette mesure pénalise de milliers de personnes qui dépendent de ses institutions d'enseignement et de l'hôpital qu'elle gère. Pour elle, la personne de Matata Ponyo n'est pas à confondre avec la Fondation. Dans ce journal aussi, la réaction d'un avocat sur ce dossier. 5 ans après son instauration au pays, le système LMD suscite des appréciations diverses. Il faut lui accorder du temps pour être pleinement maîtrisé, estiment certains. D'autres pensent à son réajustement afin de mieux l'adapter aux réalités de l'université congolaise. Le débat sur la révision ou le changement de la constitution du pays continue à susciter des interrogations dans l'opinion publique et dans la classe politique. Dialogue entre Congolais s'y est penché hier. Dans ce journal, les réactions des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal. La décision du procureur général ordonnant le gel des comptes bancaires de l'université Mapon, des écoles maternelles, primaires et secondaires ainsi que de l'hôpital Mapon continue de susciter de vives réactions. Ces institutions appartiennent à l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, condamné dans l'affaire Bukangalonzo. Après la marche pacifique organisée lundi dernier à Kindu par des élèves, étudiants et personnels administratifs de l'université et de l'hôpital Mapon, c'est autour de la fondation Mapon de hausser le ton. Dans une déclaration rendue publique mercredi, la Fondation estime que cette mesure met en danger la vie de milliers de personnes qui dépendent quotidiennement des services fournis par ces établissements. Elle appelle ainsi à l'arbitrage du chef de l'État, garant des institutions, afin que les droits de ces structures soient rétablis. Docteur Mbungo Mulaila, membre de la Fondation Mapon, a lu cette déclaration au micro de Florence Kizalunga.
C'est depuis le 3 mars dernier que nous étions surpris d'apprendre par la TMB que nous n'avions plus d'accès à nos comptes bancaires sur instruction judiciaire. Pourtant, jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucun document officiel de la part de la TMB, encore moins d'une quelconque instance judiciaire ordonnant ce gel de nos comptes. Pire encore, même le fonds de l'université Mapon et du centre hospitalier Lumbulumbu, logé à la microfinance populaire, sont affectés par cette décision. Cette mesure arbitraire compromet gravement la continuité des services essentiels que nous offrons à la population. Elle met en péril la vie de milliers de bénéficiaires et plus des 500 agents et leurs dépendants. C'est pourquoi nous condamnons fermement cette décision qui va à l'encontre de l'intérêt général et appelons les autorités compétentes à déconsidérer sans délai cette mesure injuste. Qui oublie que la Fondation Mapon est une personne morale dotée de la personnalité juridique qu'on ne peut pas confondre avec la personne Matata Ponyo.
Cette décision du procureur général ordonnant le gel de ses comptes bancaires suscite aussi beaucoup de réactions donc de la part des auditeurs des radios Capier internautes. Mais que dit la loi à ce sujet? Écoutez des explications de Maître Omar Kigalou, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est joint par Alain Irung.
Par rapport au gel de biens appartenant aux universités Mapon, aux écoles Mapon et à la Fondation Mapon, il convient de préciser de manière méticuleuse que cette question est très complexe et relève de l'application de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce faisant, si le procureur général, près la Cour constitutionnelle, estime que les universités Mapon, les écoles Mapon, la Fondation Mapon ont été créées dans le seul but de blanchir l'origine illicite de l'argent détournant Bukangalonzo, les articles 114 et 121 de la loi que j'ai cité ci-haut lui donnent le pouvoir de surveiller les comptes de ces structures, mieux de geler afin de procéder aux enquêtes. Mais il faut préciser que ce n'est qu'une mesure conservatoire, car à l'issue des enquêtes, s'il est établi que ces structures n'ont aucun rapport avec les détournements de Bukangalonzo, le procureur va simplement et purement lever cette mesure. Au cas contraire, le bien gelé sera définitivement saisi et remis à l'État congolais.
Cinq ans après l'instauration du système licence master doctorat LMD en République démocratique du Congo, le débat reste ouvert au sein de la communauté universitaire, présenté comme une réforme destinée à aligner l'enseignement supérieur congolais sur les standards internationaux. Le système LMD suscite aujourd'hui des appréciations diverses. Si certains enseignants le considèrent comme une innovation qui nécessite du temps et un processus d'apprentissage pour être pleinement maîtrisé, d'autres estiment que sa mise en œuvre s'est faite sans respecter certains préalables essentiels. Il s'agit notamment de l'acquisition des équipements et de la formation des enseignants. Du côté des étudiants, les avis oscillent également entre adaptation au nouveau système et difficulté dans son appropriation. Le point avec Christian Makasinga.
Cinq ans après l'introduction du système LMD de l'enseignement supérieur congolais, les avis restent partagés. Si certains y voient une réforme nécessaire pour moderniser l'université, d'autres pointent les insuffisances qui ont accompagné sa mise en œuvre. Achille Bounjoko, professeur des universités, estime que toute innovation nécessite du temps pour être maîtrisée.
Le système de LMD doit d'abord être considéré comme une innovation dans notre système éducatif. Il y a des éléments du processus qui n'ont pas été maîtrisés. Il s'agit exactement de l'apprentissage. Rassurez-vous, innovation, ce n'est pas en 5 ans, tous les éléments seront maîtrisés.
Le chercheur Antoine Bétine de l'Université Pédagogique Nationale, la réforme aurait été appliquée sans respecter plusieurs préalables essentiels.
Le système LMD au Congo, c'est un système inadapté, c'est un système qui est passé à côté de ses attentes. Pourquoi gérer ces tableaux sombres? Tout simplement parce que le système n'a pas respecté certains préalables avant d'être implanté.
Côté des étudiants, les avis sont également partagés.
Les désavantages, c'est que certains types d'étudiants ne prennent pas le temps d'aller se former. Les enseignants également, certains ne maîtrisent pas juste que c'est le système LMD.
Cinq ans après son instauration en RDC, plusieurs voix appellent déjà à des réajustements du système LMD afin de mieux adapter cette réforme aux réalités de l'université congolaise.
Après la publication d'un communiqué de la Direction générale de l'établissement public Transport au Congo Transco, annonçant une promesse de 3 millions de dollars du gouvernement pour apurer les arriérés de salaire, la réaction du banc syndical ne s'est pas fait attendre. Gaylor Omwambaye, président adjoint du syndicat des agents de Transco, salue cette annonce. Il appelle toutefois une concrétisation rapide de cette promesse afin de soulager les travailleurs qui cumulent leurs 3 mois d'arriérés de salaire et la situation est difficile à vivre. Il s'est confié à Magloire Lando.
Ce que nous demandons au gouvernement, c'est respecter la parole, parce que les agents ont fait 3 mois impayés. Imaginez-vous un papa qui a les enfants à l'université, soit présente les examens d'état, il y a le loyer qui l'attend. Et c'est un peu dommage que le gouvernement respecte ces paroles. Nous serons obligés de réagir et de mener nos actions prochainement si cela n'est pas fait. Parce que c'est la promesse du ministre des Finances. Nous demandons au gouvernement d'abord de voir. La priorité, c'est le social des agents. Pour arriver à cela, des entreprises qui gagnent l'argent à partir des fonds de fiscalité. Si on nous met là-bas, c'est bien. Si le gouvernement voit que c'est difficile de mettre là-bas, qu'on commercialise, s'ils ne veulent pas que le gouvernement continue à nous subventionner, ils veulent maintenir le montant à 500 francs. Qu'on aille d'une autre manière pour que l'argent entre dans le compte Transco. Nous sommes proches de la population pour qu'ils ne laissent pas cette entreprise mourir d'elle-même comme ça.
Autre nouvelle, les secrétaires généraux et des députés nationaux s'engagent à faciliter la mobilisation des bailleurs et des partenaires du gouvernement afin de maximiser les financements du secteur eau, hygiène et assainissement en République démocratique du Congo. Ils ont pris cette option lors d'une réunion tenue hier jeudi à Kinshasa. En offrant cet espace d'échange, le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement souhaite susciter un engagement concret pour des actions mieux coordonnées. Que retenir d'autre de cette rencontre, Blaise Ndongala?
Les participants à cette réunion ont déploré le faible taux d'accès aux services d'eau potable, d'assainissement amélioré et d'hygiène en RDC, un pays qui dispose pourtant de 52% des réserves d'eau douce du continent africain. Selon le secrétaire exécutif du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, le taux d'accès à l'eau potable est estimé à 54%, celui de l'hygiène à 24%, tandis qu'à l'accès à l'assainissement ne dépasse pas 17% en RDC. Pour Antoine Lumonadio, c'est une mobilisation financière plus soutenue permettra d'inverser cette tendance.
Il faut qu'au niveau du secteur que nous puissions arriver à améliorer la mobilisation des ressources techniques et des ressources financières.
Il estime également que l'amélioration des taux d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement contribuera à prévenir des maladies et des épidémies dans les pays.
Si les taux d'accès à l'eau est faible, à l'hygiène et à l'assainissement est faible, n'est-ce pas, nous avons des conséquences graves. Il y a des maladies, il y a des épidémies qui sont au pays. Eh bien, pour les éviter, il faut qu'on puisse améliorer, n'est-ce pas, le taux d'accès à l'eau, générale à l'assainissement. Donc, ils font un pourcentage élevé en termes de budget.
Lors de la réunion de Madrid en 2025, la RDC avait pris l'engagement de réduire la proportion de la population rurale et périurbaine n'ayant pas accès à l'eau potable et à l'assainissement.
Parlons de cette bonne nouvelle pour le pays. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la transformation locale de ses ressources minières. Le gouvernement congolais a officiellement lancé mercredi la toute première raffinerie pilote d'or du pays à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Jocelyne Moussa Oponde nous en dit plus.
Baptisée DRC Gold Refinery SA, cette installation industrielle est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise publique DRC Gold Trading et la société Lunga Mining. La raffinerie a une capacité de production estimée entre 500 et 600 kg d'or par mois. Elle couvrira toute la chaîne de valeur depuis l'achat de l'or brut jusqu'au raffinage et à la production des lingots. Selon le ministre des Mines Liwatum Kabamba, cette infrastructure marque une avancée majeure pour le secteur aurifère congolais. Elle permettra notamment d'assurer une meilleure traçabilité de l'or et d'offrir des prix plus équitables aux mineurs artisanaux. Pour la première fois, la RDC se dote de la capacité de raffiner ses propres minerais stratégiques, tout en garantissant des prix équitables et des conditions transparentes pour les mineurs artisanaux, a déclaré le ministre. Avec cette raffinerie pilote, la RDC ambitionne désormais d'exporter de l'or raffiné à une pureté de 99,9% dans le cadre des réformes engagées pour renforcer la transparence et la valorisation locale des ressources minières.
Restons dans le secteur minier, mais allons cette fois en Ituri, à Mambasa, territoire situé à 165 km au sud-ouest de Bunia. Le carré minier de Muchacha a été attaqué la nuit de mercredi à hier jeudi par des hommes armés non autrement identifiés. Selon la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri, plusieurs personnes auraient été tuées et des maisons incendiées. Parmi les infrastructures touchées figure également une base occupée par des exploitants d'or chinois opérant dans cette partie du territoire. Cette structure demande aux autorités de prendre des dispositions pour mettre fin aux tueries et pillages de la population. Je vais Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile forcée de l'Ituri, au micro de Marcel Kizabiamungu.
Dans la nuit du 11 au 12, les hommes armés, non autrement identifiés jusqu'à présent, ont fait incursion à Muchacha et auraient tué plusieurs personnes et plusieurs maisons sont parties à fumer, notamment la base de Chinois qui exploitent l'or dans cette partie du territoire de Mambasa. La population de chefferie de Bombo n'arrive pas à accéder à la zone pour dénombrer les dégâts et faire une évaluation correcte des dégâts, parce que les hommes armés sont jusqu'à ce moment où nous communiquons sur les lieux. Nous invitons l'autorité provinciale, à travers ses services spécialisés, de prendre des dispositions pour arrêter une fois pour toutes le massacre de la population civile, les pillages ou destruction des biens et incendies des biens de la population.
Fin de l'incertitude à l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Kisangani. Après 2 ans d'interruption faute de financement, le chantier de Magopi a officiellement repris mardi dernier, une décision actée lors du dernier conseil de l'Institut pour offrir un cadre d'apprentissage digne aux étudiants. Sur place, les membres du comité de gestion, les étudiants et le personnel scientifique ont exprimé leur soulagement. Jacques Moukoukouli nous en dit plus.
C'est sur le site de Magopi que le signal de la reprise a été donné. Pour le directeur général de l'ISTEM, le professeur Batina Agassa, l'heure n'est plus au discours mais à l'action. Son objectif principal, la qualité de l'enseignement.
Que nous puissions rapidement terminer les auditoires pour que les étudiants puissent avoir les conditions meilleures dans lesquelles il faut étudier, parce que nous visons l'excellence.
Ce message résonne comme une victoire pour les premiers bénéficiaires. Longtemps complexés face aux autres établissements de la ville, les étudiants voient enfin le bout du tunnel.
En cours de la route, si on se croise avec d'autres étudiants, ils se moquent de nous, l'ISTEM, vous ne voulez pas construire. Mais comme nous avons vu déjà les travaux repris, vraiment c'est une fierté, nous sommes ravis.
Un sentiment partagé par les corps enseignants. Pour le personnel scientifique, ces nouvelles infrastructures vont booster les performances académiques.
Ça va donner la meilleure de qualité des enseignements, beaucoup d'espace pour regrouper tous les étudiants dans des auditoires. Et cet espace va offrir que l'enseignant ait suffisamment de possibilités pour améliorer sa manière.
Le constructeur promet une livraison dans 4 mois sous réserve de disponibilité des fonds. En attendant, pour transformer ce rêve en réalité, le DG lance un appel à la solidarité. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Ouganda annonce une nouvelle politique d'exemption de visa pour les ressortissants de 40 pays, principalement africains, mais les citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne restent soumis à l'obligation de visa pour entrer dans le pays. Selon le gouvernement ougandais, cette décision vise à faciliter les déplacements, renforcer la coopération régionale et stimuler le tourisme ainsi que le commerce. Africanews.fr rappelle que cette décision intervient dans un contexte de tension sur les politiques migratoires. En janvier dernier, les États-Unis ont durci leurs règles de visa pour plusieurs pays, dont certains en Afrique, avec notamment des restrictions supplémentaires et un gel de certaines procédures d'immigration.
L'invité.
Le débat sur la révision ou le changement de la constitution en République démocratique du Congo continue à susciter des interrogations dans l'opinion publique et la classe politique. Pour certains partisans de l'Union sacrée de la nation, cette loi fondamentale de la République n'est plus adaptée aux réalités actuelles du pays. Il faut la modifier pour accorder un troisième mandat au président Félix Tshisekedi. Face à cette volonté exprimée par l'UDPS notamment, l'opposition rejette fermement l'hypothèse d'une révision constitutionnelle. On écoute les interventions des participants à ce débat au micro de Jean-Marc Matouaki.
Monsieur Daniel Asselo, vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Comment l'UDPS justifie sa démarche qui vise à toucher à la Constitution?
Je vous dis tout de suite là que la démarche de l'UDPS est politiquement justifiée. Tout le monde se rappelle dans ce pays que lors de l'adoption de cette Constitution au référendum, nous sommes en 2005. L'UDPS s'est abstenu et a décidé de ne pas aller participer à ce référendum. Tout le monde le sait. On doit nous demander au jour d'aujourd'hui qu'on reste intellectuel, comme je l'ai dit à une occasion, et la vidéo est en train de circuler. Qu'on ne nous pose pas, on ne veut même pas nous poser la question de savoir pourquoi en 2005, nous avons décidé de ne pas aller participer à ce référendum sur l'adoption de la Constitution. Ça, c'est un. Donc, sur le plan intellectuel, vous voyez que c'est important que l'UDPS amorce cette démarche ici. Sur le plan toujours politique, nous allons rappeler à tout le monde que dans ce même cadre, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous allons le dire combien de fois, a déclaré à l'intention du Congo et de l'Afrique et peut-être du monde. C'est vrai que ça concernait la constitution de la République démocratique du Congo. Mais le président Tshisekedi a dit, entre autres, que cette constitution était écrite par les étrangers, qu'elle est fausse, et lorsque l'UDPS accédera au pouvoir, c'est la promesse, pour nous c'est un testament, c'est la promesse faite par Étienne Tshisekedi. Lorsque l'UDPS accédera au pouvoir, elle donnera à la République une nouvelle constitution.
Alors, Mike Mukeba est coordonnateur provincial d'Ensemble pour la République. Comment analysez-vous justement cette démarche de l'UDPS?
Je suis en face au cadre de l'UDPS, je suis très content. Il dit que c'est une constitution rédigée à l'étranger des étrangers. Il ne vous dit pas dans quelle ville du monde elle a été rédigée. Même Étienne Tshisekedi ne l'a jamais dit dans quelle ville. Et il faut nous donner les noms de ces rédacteurs étrangers. Vous ne les avez pas. Cette constitution a été rédigée par une commission mise en place par le Sénat du 1+4 de la transition, et c'est cette commission qui a travaillé à Simisimi, à Kisangani. Les faits sont là. Les rédacteurs sont congolais, 16 sénateurs. C'est une commission sénatoriale qui a travaillé là-dessus, et cette commission a bénéficié de l'apport de certains étrangers. Si je peux le compter, ils étaient trois. El Hadj Bodge, le Sénégalais, il y a un autre dont la nationalité, le nom m'échappe, et il y a eu Bob Kabamba pour le compte de son université, l'université pour laquelle il travaille en Belgique. Ouais. Alors, elle est constitution des étrangers, ou quand elle a quitté Kisangani, comme avant-projet, avant d'être examinée au Sénat, il y a eu des experts congolais qui l'ont retouché, qui ont essayé de voir, pour donner à cette constitution la forme légistique, les Beauchamp, les Mampouillet, tous les autres. Ici, une commission des experts, elle est passée au Sénat, avant-projet, de l'avant-projet, projet à l'Assemblée nationale, et puis promulgation. Elle est une constitution de l'étranger, depuis quand? Et c'est cela le problème, là où c'est suspect. Parce que votre campagne repose sur le mensonge, je sais que vous avez un agenda caché. C'est cela le grand problème.
La volonté, elle est claire, et c'est Bidimbou qui le dit, vous voulez un pouvoir à vie, vous vous êtes trop compromis dans la gestion, vous voulez pas de redevabilité. Voilà, les Congolais doivent le savoir.
Merci Mike, on va écouter cette fois-ci Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse du débat relatif justement à la révision ou au changement de la Constitution?
Bon, le débat sur cette question a toujours été délicate et sensible parce que ça nous rappelle entre notre historité politique récente des événements de 2015 et 2016. À savoir un président qui arrive à un mandat, un débat autour de son maintien au pouvoir. Et si vous regardez le contexte, on est pratiquement dans un même contexte d'un président qui a son dernier mandat constitutionnel et donc des velléités de vouloir se maintenir au pouvoir. Quand on connaît la sensibilité de la question, on peut comprendre également qu'il y ait autant d'émotions et des passions sur la question. Deuxièmement, c'est l'ambiguïté. Parfois on parle révision, parfois on parle changement, on dit maintenant toucher. Est-ce que toucher veut dire modifier? Est-ce que toucher veut dire changer? L'ambiguïté sur la question entretient donc la suspicion et puis il y a des déclarations comme celui du ministre qui viennent encore complexifier et jeter de l'huile sous le feu pour justement orienter vers une logique de changement. Et donc il n'y a pas sur la table aujourd'hui, même conduit par l'UDPS, un débat de fond sur quels sont les éléments sur lesquels on discute.
Vous pouvez réécouter l'intégralité de ce numéro de dialogue entre Congolais en allant sur www.radiookapi.net. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal préparé par Alain Rung, mis en onde par Dieudonné et Nyangasa. Passez une excellente journée.